Donc, la question la plus importante à se poser est la suivante. Comment un commerçant en ligne peut-il augmenter ses ventes, son trafic et son taux de conversion? Eh bien, qui dit question dit également réponse. À chaque mardi, vous aurez donc la chance d'entendre des experts d'un peu partout du milieu francophone. Abonnez-vous, prenez des notes et soyez attentifs. Bienvenue à tous au podcast Commerce Elite.
Donc, bienvenue à tous au volet de discussion du podcast Commerce Elite. On a la chance aujourd'hui de s'entretenir avec Marine Errand, directrice de l'acquisition ainsi que du volet CRM chez Wikasa. D'ailleurs, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'organisation, on parle d'une place de marché qui met en relation des particuliers avec des professionnels allant de la catégorie ménage pour la maison à coach sportif. Leur approche sur l'acquisition de clients est excessivement sophistiquée et c'est ce dont on va parler ensemble aujourd'hui. Marine, merci beaucoup d'être avec nous.
Merci à toi, Antoine. C'est un plaisir.
Et c'est un plaisir également pour moi. Et Marine, peut-être pour commencer, est-ce que ce serait possible peut-être pour toi d'expliquer, de bien expliquer à l'audience qu'est-ce que Wikasa pour les gens peut-être qui ne connaissent pas, pardonne-moi, la société?
Oui, tout à fait. Donc, Wikasa, c'est un site et une app qui permettent de réserver facilement des services de bien-être et d'aide à domicile. On va travailler les verticales du ménage, de la garde d'enfants, la coiffure à domicile, beauté, massage, coach sportif. Et effectivement, un point important, c'est qu'on a le fonctionnement d'une marketplace. Donc en fait, on va avoir d'un côté la volonté d'essayer de rendre la vie de nos clients plus facile en leur redonnant du temps, que ce soit pour eux ou pour leurs proches. Donc ça va être la partie demande de la marketplace. Et puis de l'autre côté, on soutient activement le travail de dizaines de milliers d'indépendants professionnels à présent. Et ça, c'est la partie supply de la marketplace. Et aujourd'hui, on est en juin 2024, on est présent en France et au UK.
Bon, toi, tu es dans l'entreprise, je pense, depuis 2020 maintenant, Marine. Tu as toujours occupé des postes dans l'acquisition de trafic payant. On voit vraiment que c'est ta catégorie, c'est ce dans quoi tu as travaillé pour une très bonne partie de ta carrière. Peut-être que ça serait possible pour toi de nous dire aujourd'hui, ça ressemblait à quoi le mandat que tu as reçu quand tu es arrivé dans l'organisation? Pour bien situer les gens, où est-ce que l'entreprise était à ton arrivée et tranquillement se rendre où est-ce que l'entreprise est maintenant?
Effectivement, il y a du chemin qui a été parcouru depuis. Donc moi, je suis arrivée en janvier 2020. Ça fait 4 ans et demi. Et au début, quand je suis arrivée, j'étais la seule au service acquisition de Wikasa. Et on peut dire que j'avais deux missions principales, tu vois. Avec la première mission qui consiste à acquérir tous les mois un volume donné de nouveaux clients, avec un budget évidemment en face et donc un coût d'acquisition cible. Donc ça, c'est une mission assez traditionnelle quand on est responsable de l'acquisition. Et puis, une deuxième mission, c'est commencer à construire en fait une équipe acquisition. Donc, ça a été un petit peu chamboulé par les événements qu'on connaît, les joyeux événements de 2020. Donc, confinement, etc. Donc, ça a été un peu retardé. On va dire que la mission a été accomplie à peu près une petite année plus tard, début 2021, avec le choix d'organiser l'équipe par domaine d'expertise. Et donc, j'ai pu recruter 3 acquisition managers répartis comme suit. Tu vois, ils avaient chacun 3 missions très différentes. Une personne sur le SEO, une personne en social ads et app acquisition. Et aussi sur le CRM. Et enfin, une dernière personne sur tout ce qui est SIA et campagne offline. Voilà, donc ça, c'était un petit peu la ventilation de l'époque, enfin de 2021. Puis depuis, bon, il y a eu pas mal de changements, je pense qu'on va en parler, mais l'équipe s'est agrandie et puis il y a plein d'autres missions connexes qui se sont ajoutées.
Et bon, ce qui est intéressant, ce qui est difficile même dans le type d'entreprise dans lequel tu opères, Marine, c'est que, comme tu l'as mentionné, vous êtes une place de marché. Donc, c'est toujours un petit peu l'œuf ou la poule. Par où on commence? Est-ce qu'on va chercher des clients ou est-ce qu'on va chercher des professionnels qui vont être capables d'aider un peu ces clients-là? Et souvent, les réponses qui vont survenir, c'est « Antoine, il n'y a pas tellement de manière magique d'opérer. Il faut faire les deux en même temps. » Je serais quand même curieux de t'entendre ici. Où est-ce que vous avez commencé? Comment vous mettez vos efforts? Et également, par rapport à ces deux catégories, comment tu segmentes tes équipes? Est-ce que tout le monde travaille sur les deux personas, on pourrait dire ainsi, donc le client et le professionnel, ou tout ça est bien segmenté?
Effectivement, c'est une très, très bonne question. Pas des plus simples, d'ailleurs. effectivement, quand je suis arrivée, j'étais vraiment focus sur l'acquisition de clients. En fait, donc, dans cette feuille de route initiale, c'était ça. Et on s'est rendu compte assez rapidement, on va dire courant 2021, fin 2021, début 2022, que la croissance donc en chiffre d'affaires de Wicasa était aussi n'était pas uniquement dépendante de la croissance en clients. Pour accompagner cette croissance en nouveaux clients, il fallait absolument consolider en fait la supply, donc le réseau, faire découvrir Wicasa à davantage de professionnels partenaires pour consolider, renforcer ce réseau de pros. En étudiant un peu plus la question, on s'est rendu compte qu'il y avait deux limites que je vais simplifier, mais grosso modo, il y avait une limite en termes de profondeur de supply sur des zones déjà ouvertes, sur des villes déjà ouvertes, parce qu'on procède par ouverture de ville, on n'est pas présent sur l'intégralité du territoire français ou anglais. Et puis, donc être plus profond en termes de supply, avoir plus de pros dispo dans les villes déjà ouvertes, et puis accélérer d'un point de vue géographique. Donc en fait, la question c'est comment on accélère drastiquement l'ouverture de nouvelles zones, de nouvelles villes, puisque c'est évidemment un relais de croissance monumental. Donc ça c'est un peu les deux points.
Intéressant.
Et puis peut-être si tu veux que j'aille un peu plus loin là-dessus.
Bien sûr.
Alors, on va dire que c'était un sujet vraiment d'entreprise globale hein, qui dépasse le service acquisition. Donc, au global, on a travaillé à ce moment-là sur une vraie stratégie à la fois d'acquisition et de rétention de professionnels, hein, puisque ce sujet, celui de la rétention, il est commun aux deux côtés de la marketplace, à la fois pro et customer, avec des focus particuliers portés par plusieurs équipes, les sales évidemment, qui vont être en charge du recrutement des professionnels. Product et le marketing au sens large, que ce soit côté acquisition ou côté brand. Et si je zoome un peu plus sur ce qu'on a pu faire au service acquisition, plus particulièrement, donc on a commencé à acquérir des leads de professionnels. C'était porté par les experts que j'avais recrutés début 2021, dont on a parlé précédemment. Donc des experts qui étaient recrutés quand même pour au départ pour acquérir des nouveaux clients. Et en fait, c'est assez rapidement devenu une évidence que fallait créer un véritable pôle dédié à l'acquisition de leads de professionnels, puisque les missions sont vraiment différentes, en fait. On n'est pas sur la même audience, on n'est pas sur les mêmes cadeaux d'acquisition, on n'a pas les mêmes métriques business, les interlocuteurs en interne ne sont pas les mêmes, que ce soit avec les sales, la brand, le product. En fait, on va avoir aussi un enjeu de stakeholder, d'identification de stakeholder et d'avoir une Bien personne sûr. Dans mon service qui fasse le pont entre tous. C'est devenu indispensable et donc on a recruté effectivement sur ce poste en courant 2022. Et c'est un poste dont la responsabilité est d'acquérir des leads professionnels pour étoffer, accélérer le renforcement du réseau de professionnels.
Donc vraiment des équipes totalement dédié à l'interne selon le persona que vous allez chercher. Et quand je parle, bien entendu, de persona, je parle de clients et de professionnels. Donc, c'est assez intéressant. Globalement, l'entreprise, ou plutôt ton département, ton équipe, t'es arrivé, t'étais seul, tu devais le construire. Aujourd'hui, vous êtes combien?
Écoute, aujourd'hui, on est une dizaine. Effectivement, l'équipe a bien grossi. Et puis, c'est pas fini. Hein, donc effectivement, une petite croissance chaque année en effectif.
Ben bref, félicitations, parce que je pense que c'est assez exceptionnel ce que vous avez été capable de construire depuis le début au niveau du marketing de Wicasa. Et on va rentrer peut-être un petit peu plus dans le vif du sujet ici. Qui dit bon marketing numérique, bon direct response marketing, on peut dire ainsi, dit bonne compréhension de ses chiffres, bonne compréhension de son data. Et tu me disais dans un appel précédent qu'on a eu Marine ensemble, toutes vos actions, toutes vos initiatives d'acquisition sont basées sur une formule simple qui est très connue dans l'ensemble des gens qui vont faire du direct response marketing. C'est votre valeur long terme client, votre LTV sur 12 mois. Donc, vous la capez 12 mois après l'acquisition du client, divisé par votre coût d'acquisition. Et cette formule doit vous donner un certain ratio avant d'analyser en profondeur vraiment comment vous êtes capable d'arriver à des chiffres qui sont intéressants pour vous, comment qu'on bâtit l'infrastructure pour suivre ces données-là et s'assurer que l'ensemble des gens de ton équipe de marketing soient capables de bien comprendre si ces chiffres-là sont atteints.
Oui, effectivement, c'est une bonne question. Donc, c'est vrai qu'on est plutôt analytique dans l'équipe. On aime bien les chiffres. Et ça, ce chiffre-là, c'est un peu notre North Star métrique. On a capé ce ratio LTV sur CAC, on l'a capé à 12 mois parce que ça nous permet d'être réactif, de pas attendre trop longtemps en fonction des évolutions à la hausse ou à la baisse. Donc, c'est vraiment un outil de pilotage assez réactif. Et d'ailleurs, peut-être au passage, ça peut être intéressant de... C'est pas une science absolue, ça peut être intéressant de dire que, par exemple, sur le UK, on s'est lancé en 2021. On est beaucoup plus récent. Et au début, on utilisait la métrique LTV sur 6 mois, sur CAC. Donc, en fait, on était beaucoup moins long terme dans le ratio, puisqu'on n'avait pas suffisamment d'historique pour regarder à plus longtemps. Donc, c'est un ratio qui peut, suivant les industries, suivant les entreprises, qui peut complètement être modulable. Mais en tout cas, chez nous, c'est énormément utilisé.
Puis c'est intéressant peut-être juste d'ouvrir un petit peu la parenthèse ici. Et par la suite, on retourne à l'infrastructure que vous analysez. Quand tu dis que sur le UK, vous avez commencé sur une dynamique 6 mois, et je pense que c'est bon pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Je serais curieux de t'entendre ici, Marine. On s'entend, quand on ouvre un nouveau marché démographique, eh bien, la réponse de la clientèle risque d'être différente. Donc, de partir d'une science absolue ou de partir d'une prémisse absolue en se disant que notre valeur long terme client en France va être la même sur 12 mois qu'en Angleterre, qu'au Canada, qu'en Belgique, etc., ça peut être une erreur. Donc, d'où l'idée d'être un petit peu plus conservateur, j'imagine, dans ces approches au départ, là.
C'est complètement vrai. Il y a plein de choses qui vont différer. On peut avoir un pricing qui est différent, donc une marge qui est différente, une fréquence d'achat qui est différente. Donc, en fait, une concurrence qui est potentiellement plus mature, etc. Donc, en fait, effectivement, et même, je te parle de LTV 6, au tout début, ce qu'on a commencé à regarder, on était même sur de la LTV à 1 mois, en fait, pour avoir vraiment une réponse rapide de ce que ça peut donner. Et puis d'extrapoler de manière hyper précautionneuse et plutôt toujours conservative ce que ça peut donner en LTV 2, LTV 3, LTV 6. Et on va vraiment regarder nos cohortes comme ça. Donc, effectivement, ouais, c'est un point super intéressant.
Intéressant. Et bon, on continue, on revient à ma question initiale. On la suit comment, cette infrastructure-là? Ouais. Plutôt, on les suit comment, ces chiffres, et comment bâtit-on l'infrastructure?
Écoute, sur niveau infrastructure data, donc ça, c'est vraiment une chance qu'on a chez Wikasa, je pense, c'est qu'aujourd'hui, on utilise la suite Zoho. Et donc, on va l'utiliser, je dirais, à l'acquisition, on va utiliser 3 pans majeurs de la suite. Le premier, c'est le pan data visualisation. Donc, c'est Zoho Analytics. Il n'y a pas que notre service qui l'utilise, d'ailleurs. Hein. Enfin, il y a toute la boîte. Mais en tout cas, pour nous, c'est un outil ultra en mode vraiment self-service. Donc, ultra flexible pour aller regarder toute la donnée qu'on veut sous tous les angles d'analyse qu'on souhaite. Et puis, il y a 2 autres briques qu'on aime beaucoup, qui sont du coup interconnectées nativement, puisqu'elles font partie de la même suite. C'est l'outil Zoho CRM pour une partie de notre CRM. Et puis, l'outil Zoho Survey, qui va être l'outil qu'on utilise aujourd'hui pour collecter de la data via des enquêtes, en fait, via des enquêtes sur notre base.
Puis, je serais curieux peut-être de t'entendre ici. Là, on a l'infrastructure Zoho qui est mise en place, mais finalement, pour la source un petit peu de vérité absolue, et peut-être qu'on pourrait ouvrir un peu la discussion ici, est-ce que, pour bien situer les gens qui nous écoutent aujourd'hui, c'est vraiment ce sondage-là d'après achat qui est votre source de vérité, qui vous dit, la personne Antoine qui a pris un service de coaching sportif, qui a acheté chez vous, dit dans le sondage, il vous a connu via Facebook. Donc, Facebook est la source de vérité. Facebook reçoit l'attribution. Est-ce que c'est comme ça que vous y prenez ou il y a d'autres choses qui s'intègrent dans la source de vérité?
Ouais, non, effectivement, ça va être vraiment notre source of truth. Donc, ce qu'on va faire, en fait, en mécanique, c'est assez simple. On va avoir une enquête qui va être déclenchée. Donc, dès qu'un client, en fait, a eu une session qui a été délivrée par un professionnel, on va lui demander comment ça s'est passé. Et dans cette enquête, on va poser plusieurs questions et une des plus importantes pour l'équipe acquisition, c'est de savoir comment le client nous a connus. Et puis, on sait que ça peut être un peu biaisé, un peu partiel, une donnée un peu incomplète, mais qui est comparable à elle-même dans le temps. On a la chance d'avoir cette survey qui est live depuis les débuts de Wikasa, depuis 2016. Et donc, ça va être vraiment de cette manière-là qu'on va pouvoir récompenser l'intégralité de nos canaux marketing, soit web ou app, online ou offline. Et donc, nous servir en fait de modèle d'attribution finalement. Donc, c'est effectivement comme ça qu'on fonctionne aujourd'hui.
Intéressant. C'est fou à quel point pendant des années, on s'est fait vendre l'idée d'avoir ces gros systèmes sophistiqués de tracking qui vont tout suivre de A à Z. Et plus le temps avance, plus les mois avancent, les marketeurs s'entendent pour dire que la chose la plus intéressante à utiliser comme source de vérité, ce sont les sondages post-achat. Je trouve ça toujours fascinant de me rendre compte que finalement, on retourne à la base ici. Là.
Ouais, je te rejoins complètement. Je te rejoins complètement. En fait, les parcours aussi se complexifient, les parcours clients, que ce soit du web ou du app, de l'app, les browsers qui sont différents, desktop ou mobile, etc. Et, en fait, dans un contexte aussi de raréfaction de la donnée, avec tout ce qu'on connaît, enfin les adblockers, les problématiques RGPD, l'ITP, etc. De toute façon, dans tout ce qu'on peut traquer, on est déjà aveugle sur 50% de la donnée. Donc, en fait, ça devient super difficile d'avoir des modèles d'attribution ultra complexes et sophistiqués. Et cette méthode au CPA déclaratif, en fait, a le grand mérite d'être quasi gratuite. Hein. Elle repose sur des données CRM et d'être déclarative.
Sûr,
et donc, voilà, repose sur la bonne volonté des gens à répondre à nos questions, effectivement.
Et c'est souvent la chose qui nous intéresse le plus, parce que si on sait pertinemment que les gens disent « je vous ai connu à cause de ça », eh bien là, on n'a plus simplement des machines publicitaires, des plateformes publicitaires qui s'arrachent pour aller chercher un petit peu plus l'attribution pour nous pousser à investir davantage sur leur terrain à eux. Ici, on a le feedback en direct du client. Donc, c'est bien entendu beaucoup plus facile, beaucoup plus intéressant, j'imagine, même par la suite pour faire notre allocation budgétaire. J'aimerais continuer un petit peu sur ce point-là avec toi parce que je trouve ça assez intéressant ce qui se déroule de votre côté. Vous avez beaucoup de données que vous avez acquises à travers les années. Bien entendu, vous avez une sophistication qui est plus élevée au niveau de votre marché domestique que les nouveaux marchés que vous ouvrez comme les UK que tu nous as mentionné plus tôt. Et je pense que, et corrige-moi si je me trompe ici, vous allez bâtir un petit peu des thèses d'investissement selon des modèles qui proviennent de la première transaction. Donc, pour faire simple, si sur une première transaction, une campagne de pub nous amène, on va dire un chiffre arbitraire, 100 euros de transaction pour une catégorie précise, avec les modèles que vous avez bâtis dans le passé, vous êtes capable d'avoir une vision claire de qu'est-ce que ce client va être capable de nous ramener sur un échantillon de 6, 12, 18, 24 mois. Peux-tu peut-être expliquer un petit peu à l'audience ce que je viens d'amener à ton attention et également nous dire comment tout ça a été bâti?
Oui, effectivement. Vous savez, c'est un sujet assez passionnant. Donc, on a parlé précédemment de l'équation LTV sur CAC. Hein, donc, c'est un peu le contexte par lequel on a abordé cette problématique. Et quand on cherche à maximiser ce ratio, il y a deux manières de faire. Soit on agit sur le numérateur, soit sur le dénominateur, soit les deux en même temps. Quand on vient du monde de l'acquisition, comme moi, le plus naturel, le plus rapide, enfin le plus gros focus, ça va être, première action, ça va être de faire baisser les CAC. Ça, c'est vraiment le truc le plus naturel. Mais on s'est pas du tout arrêté à ça. On a aussi beaucoup travaillé la partie amélioration de la LTV et c'est pas fini. Et en fait, pourquoi, enfin, c'est complètement intéressé, mais quand, si on observe une hausse notable de la LTV, en fait, on va libérer énormément de pression côté CAC. On va pouvoir réouvrir, en fait, des coûts d'acquisition potentiellement plus élevés tout en maintenant notre ratio au niveau attendu, notre ratio LTV sur CAC. Et donc, si on libère du volume, niveau volume de clients, croissance de Wicasa, c'est bénéfique pour tout le monde. Tout le monde s'y retrouve. Et puis, c'est quand même un peu plus intéressant de travailler comme ça. Donc ça c'est un peu pour le contexte. Et puis tu parlais aussi de effectivement de la valeur de la première transaction. En fait, là-dessus on a travaillé avec l'équipe data ils ont mouliné en fait les données passées. Donc on a énormément de données maintenant. Ils les ont travaillées et pour construire un petit modèle prédictif qui finalement est assez simple. Et l'objectif de ce modèle c'est de prédire la valeur moyenne de la LTV à 12 mois apportée par un nouveau client. Au moment de sa première transaction. Donc, au moment où il passe sa première commande, on va être capable de prédire la valeur qu'il va nous rapporter. Et on appelle ça la Predicted LTV 12 en interne. C'est pas un super joli nom, mais on va le rebrander. Et le modèle qui va prédire ça, en fait, il est assez simple et il prend en compte deux paramètres. Le premier, ça va être la verticale d'entrée du client. Donc, quel service Wicasa le client a-t-il consommé en premier? Est-ce que c'est de la coiffure, du massage, du ménage, de la garde d'enfants, etc. Et le deuxième paramètre du modèle, ça va être la valeur de la première commande du nouveau client. Donc, en fait, c'est deux métriques qu'on a d'entrée de jeu, en fait, dès qu'on a acquis le client.
Bien sûr.
Effectivement. Et après, peut-être que je pourrais rajouter que niveau méthodologie, si on est un peu jusqu'au boutiste, évidemment, on fourchette le tout avec des bornes inférieures et supérieures pour éviter des résultats absurdes. Et on renvoie évidemment la valeur en fait aux différentes plateformes publicitaires. Cette valeur de LTV 12 dans le champ valeur, on va la renvoyer comme ça nous permet d'avoir un predicted LTV ROAS, LTV based ROAS, peu importe le nom on va choisir, mais donc ça, on va la renvoyer aux plateformes publicitaires et ça va nous aider dans notre allocation budgétaire. Et puis, on va le faire vivre, ce modèle, puisque la LTV 12 est mouvante, elle s'améliore d'année en année. Donc, on va actualiser les paramètres du modèle de temps en temps, pas tous les mois, mais tous les 6 mois ou 12 mois, pour le faire vivre et être au plus près de la réalité, effectivement. Donc ça, c'est, Je sais pas si j'ai complètement répondu à ta question, mais globalement, c'est un peu
non, mais c'est fascinant. Puis, peut-être juste pour rebondir un peu sur ce que tu dis, quand tu dis on prend l'information et on la renvoie aux plateformes publicitaires, donc on rentre un petit peu dans le technique ici, mais je pense tout de même ça peut être intéressant pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui et qui veulent mettre ça en place. Donc, bien entendu, j'imagine que votre modèle a été bâti sur des milliers et des milliers et des milliers et des milliers de transactions qu'au final, en analysant tout ça, vous avez été capable de voir que quelqu'un qui entre avec un coach sportif ou quelqu'un au niveau du ménage, en moyenne, il va acheter pour X, Y, Z dans l'année quand il provient de la verticale X ou Y, comme tu nous as mentionné. Donc ça, je pense que c'est assez clair pour les gens qui nous écoutent. Et par la suite, quand vous allez prendre cette information-là et vous allez les renvoyer aux plateformes publicitaires, prenons Meta, par exemple. Donc, vous allez renvoyer ça aux plateformes publicitaires ici et littéralement, vous allez bâtir des événements personnalisés pour que vos équipes soient capables d'avoir des modèles qui sont capables d'optimiser sur cet événement-là spécifique, qui va dire que quand on achète un client, ou plutôt quand on acquiert un client pour le prix de 20, 30, 50 euros, on le sait exactement quelle est la valeur que ce client-là va nous donner sur 6, 7, 8, 12 mois. Peut-être que tu peux nous expliquer un peu comment tout ça se met en place ici.
Oui, effectivement. Du coup, plutôt que de raisonner sur un, entre guillemets, un simple et basique coût d'acquisition dont je parlais en introduction, on va vraiment faire entrer un nouveau paramètre dans l'équation et se concentrer donc sur le CAC, sur le taux de conversion, certes, avec l'équipe product, ça c'est, on va dire, naturel, mais aussi sur l'optimisation de la LTV. Et donc, on va regarder le ROAS dans les plateformes. Tous les nouveaux clients ne se valent pas. Certains valent 4 à 10 fois plus que d'autres. Et donc, on arrête de compter de manière unitaire j'ai acquis X nouveaux clients ce mois-ci, et on va leur attribuer une valeur prédite dès le jour de leur acquisition, et on va pouvoir dire, on a acquis une somme de predicted LTV 12 en mai de temps, en fait. Donc, pour être hyper concrète, c'est peut-être intéressant pour les auditeurs. Concrètement, quelques exemples d'applications, ça va être, pour nous, ça a été de se recentrer sur les verticales dont le ratio LTV 12 sur CAC est le meilleur, par exemple. De mieux allouer les budgets par verticale d'un point de vue entreprise, voilà, et de mieux prédire aussi la croissance verticale par verticale. Mais aussi, donc ça plus d'un point de vue acquisition pure, on est complètement capable, on a en fait le pouvoir de choisir les meilleurs canaux d'acquisition pour lesquels l'équation est maximale. C'est-à-dire qu'on va être capable de voir la LTV 12 moyenne canal par canal et de se dire, en fait là, j'ai un CAC un peu plus élevé, mais la LTV 12 est nettement meilleure. Donc en fait, je suis OK pour dégrader mes coûts d'acquisition puisque derrière, je sais que je m'y retrouve. Donc en termes d'équation, enfin de mix marketing canal. Et c'est la même chose, en fait, à d'autres niveaux, même au niveau des audiences, où on a des patterns différents suivant l'âge, le genre, etc., ou le média, donc web ou app. Et du coup, ça ajoute de la complexité hein, dans le media buying, mais ça ajoute de l'efficacité aussi. Donc, c'est super intéressant. Et à la fin, en fait, on va être sur des arbitrages permanents, en termes de media buying, de product, d'audience ciblée. Faut pas négliger, c'est quand même un petit chantier qui prend un peu de temps à mettre en place et qui nécessite aussi une bonne maturité data, je pense, mais qui porte largement ses fruits à moyen terme et dont on est, c'est vrai qu'on est super content, super satisfait aujourd'hui de cette méthode.
Bien sûr. Mais c'est que ça donne de la clarté et de la facilité pour tout le monde. Par la suite, on a un objectif clair, on l'atteint, tant mieux, on continue, on accélère. Si on l'atteint pas, on réajuste et souvent, l'enjeu qui peut se déterminer, c'est qu'il y a un monde, il y a un océan, il y a une galaxie de différence entre les résultats qu'on peut voir sur la plateforme publicitaire et le réel impact sur l'entreprise de manière générale. Donc, quand on est capable de bien mixer tout ça ensemble et de s'assurer que les gens qui sont au début de l'engrenage, les acheteurs médias ici, savent exactement quel va être l'impact de leur travail sur l'ensemble de l'organisation, j'imagine que ça donne plus de clarté à tout le monde. Et peut-être juste pour terminer un petit peu, Marine, vous avez fait énormément d'avancements dans les dernières années. Les plus grandes leçons que vous avez faites, ça serait quoi les apprentissages que tu tires de toutes vos campagnes d'acquisition, de toute votre infrastructure que vous avez mis en place, que tu pourrais partager avec l'audience?
Écoute, je dirais que le premier apprentissage, il est assez personnel. Enfin, le premier qui me vient, c'est ça concerne l'intuition. On a vraiment parlé beaucoup d'analytique, de data. Et en fait, ouais, je pense qu'il y a un message, c'est libérer votre intuition. Quand on a le bon cadre, l'intuition, elle tombe pas du tout du ciel, laisse-moi les pieds sur terre, et elle sait mieux lire que le côté rationnel du cerveau, le faisceau de micro-signaux qu'on reçoit en permanence, en fait, sans les voir, sans forcément les voir. Donc, laisser de la place à l'intuition, autant qu'aux analyses. Et quitte à post-rationaliser ensuite, éventuellement, si on est sur, on parle d'impact majeur ou irrévocable, par exemple. Et chez moi, à titre perso, c'est en fait, ça libère beaucoup de choses, notamment énormément de rapidité. On va trois fois plus vite dans l'exécution. On est meilleur communicant. On inspire davantage. On est beaucoup plus créatif. On n'est jamais en manque d'idées de test. On a des roadmaps de test à n'en plus finir. Enfin, c'est pas du tout démotivant. Au contraire, c'est vraiment hyper excitant. Et puis, non des moindres, ça permet aussi d'avoir parfois une réponse quand les chiffres n'en ont pas, parce que ça arrive. Voilà, donc globalement, c'est hyper satisfaisant. Et puis, dans les leçons, j'en aurais quand même une deuxième leçon qui est assez majeure. Ce que j'ai pas dit, c'est que aujourd'hui, chez Wicasa, on est vraiment sur une organisation marketing qui a deux têtes. Donc moi, je vous ai parlé beaucoup d'acquisition, hein, c'est mon rôle. Un petit peu de product et de data au fil de l'eau. Et ça devient compliqué à ce stade de pas vous raconter le rôle de Fanny, en fait, qui est Head of Brand chez Wicasa, qui va s'occuper de tout ce qui est marque, communication et stratégie de contenu. Et ma grande conviction, mon grand apprentissage, en fait, ça va être de dire que un bon marketing, il est excellent des deux côtés. Il est excellent côté perf et côté brand. On peut pas travailler les deux composantes du marketing de manière silotée, qui pourtant est assez courant dans pas mal d'autres entreprises. Moi, ce que je crois, c'est que de l'autre côté du rideau, en fait, les prospects, les clients, les pros, ils ne se disent pas « Ah, ça, c'est une publicité brand, ça, c'est une publicité perf, c'est une publicité brand, donc je dois me souvenir du nom de la marque, ça, c'est de la perf, donc je dois télécharger l'app et faire ma première commande. » C'est caricatural, en fait. Les parcours clients sont chaotiques, non linéaires, non prévisibles, difficilement traçables, on l'a dit. Il faut embrasser ça, en fait. C'est toute la beauté et la complexité du marketing aujourd'hui. Et travailler au quotidien pour moi avec le service brand de Wicasa, c'est ça qui m'aide à maximiser notre impact à tous. Donc d'un côté, si je récapitule, ouais. Parce que j'ai fait une grosse digression, mais si je récapitule, on va avoir le media buying qui est géré par l'acquisition, acheter les meilleurs emplacements online, offline, au meilleur moment, sur les meilleures audiences. Et puis côté brand, on va avoir toute une équipe qui travaille à servir le meilleur message, un message impactant, qui génère de la mémorisation, de l'attachement, de la considération. Et c'est tout le plan, tout le plan stratégique de marque et de contenu qui va répondre, et sans lequel, évidemment, notre stratégie de media buying aurait un impact bien moindre. Et c'est comme ça qu'on a pour cible l'excellence marketing chez Wicasa au quotidien. C'est des ajustements permanents, donc... En tout cas, c'est notre
super. Fantastique. Marine, merci énormément d'avoir pris du temps avec moi aujourd'hui. Ce fut totalement fascinant. J'espère que les gens pourront en apprendre un petit peu plus comme j'ai été capable de le faire aujourd'hui. Je te remercie beaucoup. Et pour les gens qui nous écoutent, eh bien, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Commercial.